Bon, je peux peut-être juste des petits points de détail, hein, parce que j'étais interpellée tout à l'heure à propos de l'unité d'un petit quiproquo sur la question majoritaire ou minoritaire, là, parce que ce que je voulais dire ce matin, du coup j'en profite, c'était plutôt l'idée de groupe qui me gênait et non pas de minoritaire, majoritaire, au contraire, j'utilise beaucoup. Mais c'était l'idée que ça constitue un groupe, et je trouvais que justement ce que vous avez dit aussi sur le fait qu'on projette de la communauté souvent sur ces groupes, ce qui est encore autre chose, parce que c'est pas seulement dire le statut minorisé, mais c'est aussi supposer l'homogénéité. C'était plutôt ça que je voulais pointer que d'invalider. Mais en revanche, quand vous dites que les Roms sont majoritaires dans le centre, c'est ça? Coup, c'est plus au sens sociologique, c'est au sens statistique du terme.
C'est au sens statistique, mais quand même, ça change leur position, quand même. Ça change vraiment leur position, notamment par rapport aux autres familles, par rapport aux pratiques, par rapport à leurs relations avec les travailleurs sociaux. Et donc, ça leur donne une force. Ça leur donne vraiment une force, et aussi ça les change ça change leur place dans le regard qu'on peut porter sur ces familles-là, notamment de par ceux qui ne sont pas dans le CHU et qui les voient comme des privilégiés finalement de la prise en charge éducative. Alors, ce que vous me disiez, Sylvie, vous allez dans ce centre-là, il y a un grand privilège à habiter dans quelques mètres carrés avec les cafards, etc. Mais n'empêche que ils ont un toit. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les éducateurs aussi deviennent des éducateurs privilégiés, notamment du point de vue de ceux qui travaillent dehors avec des familles qui sont dans des conditions de vie vraiment très précaires. On leur dit, vos familles, donc avec appropriation, vos familles, elles sont quand même bien, bien loties, et vous-même, vous êtes dans des conditions de travail qui sont meilleures que les nôtres. Voilà.
Un premier point, un point d'information par rapport à ce que vous avez dit, je n'ai pas retenu le nom, sur ces pratiques suisses de mise à l'écart. Je voulais juste dire qu'il y a des choses tout à fait du même ordre et complètement institutionnalisées, hein, étatiques, qui ont existé, étatiques provinciales, puisque ça vaut la fédérale au Canada, avec les écoles résidentielles réservées aux Premières Nations, c'est-à-dire aux Amérindiens, parce que nous on appellerait des Amérindiens, hein, c'est-à-dire qui ont été effectivement carrément retirées des familles aussi aidées pour être mis dans des institutions. Provinciales, quoi, censées les éduquer, etc. Et ça existait jusque dans les années 90. Donc c'est très très récent et ça a duré aussi pendant des décennies. Donc c'était juste pour votre information, si vous ne connaissez pas.
Non, ça je ne connaissais pas. Voilà. Mais même ce pan-là de l'histoire, moi je l'ai découvert assez tardivement. Il y a très peu de choses écrites.
Donc ça s'appelle école résidentielle.
École résidentielle.
Donc ça, c'était un point d'information. J'avais une petite question sur ce que vous entendez par territoire éducatif, si vous pouvez préciser, ça m'intéresserait.
Oui, territoire éducatif, c'est plus dans la perspective d'analyse du travail éducatif, c'est-à-dire, par exemple, la question de la scolarisation, elle se partage entre le terrain plutôt réservé à l'école, mais en même temps, elle se pose aussi sur d'autres terrains éducatifs, notamment du travail social. Et finalement, la question scolaire n'est pas abordée, ne se déroule pas qu'au sein d'institutions scolaires. Voilà, donc l'idée des territoires éducatifs, c'était plus aussi pour envisager la scolarisation comme étant au cœur de problèmes de ce que je dis, territoire géographique, parce que la scolarisation, elle est territorialisée. Il y a un protocole qui fait qu'on répartit les enfants dans certaines écoles de la commune, etc. C'est aussi des territoires sociaux au sens où, elle n'est pas envisagée de la même façon selon les groupes desquels on parle. Et donc les territoires éducatifs, ça renvoyait plutôt aux professionnels qui interviennent à l'école.
C'est bien ce que j'avais compris. Alors, je reformule un peu ma remarque. Ce qui me gêne un peu, c'est que, c'est le sens que je mets, hein, c'est que pour moi, territoire, c'est assez délimité. Hein. Or, il me semble, de ma propre expérience, que le partage entre des enseignants, par exemple, et des travailleurs sociaux n'est pas toujours aussi délimité que
ah, mais
ça.
Il n'est pas.
Qu'il y a de la mouvance.
Ah oui, tout à fait. Mais là, quand je parle de territoire, c'est plus, on n'entre pas dans le détail, plus pour parler justement du brouillage des frontières, de la superposition, de l'interprénétration, etc. Sauf que quand même, si on écoute les enseignants, ils vont dire que l'école, c'est leur champ professionnel et que ce qui se passe dans la classe les regarde. Et en même temps, ils vont interpeller les éducateurs juste sur le fait d'amener l'enfant à l'école. Donc il faudrait que leur territoire à eux, ce soit entre, par exemple, le point de départ, le CHU, jusqu'à la grille de l'école. Et après, ce qui se passe dans l'école, c'est leur affaire. Donc il y a à la fois, on va dire des chasses gardées, en même temps des zones de flottement, des zones qui se recouvrent.
Parce que dans l'école aussi, il y a des zones qui ne sont pas réservées aux enseignants.
Tout à fait.
C'était juste pour mettre le point là-dessus. Alors j'ai un peu la même question par rapport à volontaire, involontaire. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut là non plus définir ça avec des critères très fermes, quoi. Parce que à partir de quand les choses sont vraiment complètement volontaires ou vraiment complètement involontaires, je suis pas sûre que c'est toujours le problème des frontières.
Oui, alors là, je me suis complètement référée aux travaux d'Ogni. Dans son approche, les minorités involontaires, c'est par exemple les Premières Nations de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire des groupes présents sur le territoire et qui se retrouvent minorisés. Dans des contextes qui relèvent de formes de colonisation, par exemple, de colonisation de l'intérieur, où l'exemple qu'il donne, c'est aussi évidemment l'esclavage, les déplacements contraints.
Oui, c'est vrai que je suis pas du tout séduite par cette partition. C'est vrai que bon, ça recoupe d'autres, effectivement, minorités nationales, minorités. En fait, c'est la question de la mobilité qui semble être mobile, non mobile. Mais je trouve que c'est vraiment un piège de partir du côté de cette histoire de volonté involontaire. C'est souvent ce qu'on retrouve parce qu'en France, on a aussi une partition entre réfugiés, immigrés. On a de moins en moins, j'ai l'impression. Moi, j'entendais beaucoup dans la bouche des réfugiés qui, sachant comment sont dénigrés les immigrés, disaient « Nous, on n'est surtout pas des immigrés, on est des réfugiés, avec tout ce que ça fait comme aura autrefois. » je trouve que c'est... dès qu'on rentre un peu dans les histoires, les trajectoires de vie, les trajectoires de migration, justement, on se rend bien compte que c'est un imbroglio vraiment entre les choix de partir, les contraintes de partir, c'est bien difficile de, ou l'économique et le politique, c'est souvent imbriqué. Moi je trouve que c'est vraiment je trouve ça très dangereux à manier, parce que c'est supposé que certains sont vraiment contraints alors c'est sûr que l'esclavage ça va être l'exemple le extrême. Plus extrême, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de situations où c'est plus compliqué.
Je ne réinterprétais pas les catégories que proposait Obru, et c'est vraiment les groupes, disons, territorialisés auxquels il fait référence.
Oui, mais simplement, je...
Oui, je comprends.
Je trouve que ce n'était pas à retenir comme partition entre les uns et les autres.
Mais par contre, l'entrée d'Obus, elle est plus sur minorité. Enfin, faut pas se tromper. Oui. Minorité volontaire à volontaire et pas migrant. Il n'est pas juste sur la question de la migration. Et donc, moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi, plus dans ce qu'il donne à comprendre après du rapport aux institutions. Et que finalement, ce qu'il interroge, c'est la façon dont on se sent minoritaire et pourquoi on se sent minoritaire. Est-ce que c'est par exemple par rapport à une revendication, et à ce moment-là ça peut donner une force finalement aux individus ou à des groupes, etc. Et justement cette notion de involontaire, c'est plus dans la façon dont les personnes subissent
et sont perçues
par les autres comme étant minoritaires. Et moi, ça, c'était un levier qui était plus intéressant, notamment, lui, il l'a beaucoup étudié par rapport à l'école. Et qu'il parle de sentiments de discrimination institutionnalisée. Et le fait, finalement, d'être dans des rapports de tension et très difficiles avec les institutions font qu'à un moment, les groupes n'ont plus confiance dans les institutions et, finalement, ne jouent pas le jeu des institutions et vont être plutôt dans des stratégies autres. Et donc ça, c'était intéressant, parce que, en tout cas, par rapport aux familles roms que j'ai pu rencontrer... on va dire presque de manière un peu générale, il y a ce sentiment-là quand même, de par un vécu aussi historique, très douloureux avec l'institution scolaire, de ne pas avoir été pris en compte ou d'avoir été mal pris en compte, de finalement être réticent par rapport à la fréquentation de l'école. Et donc c'est plus par rapport au fait de se sentir minoritaire, voilà, d'une certaine façon, parce que l'autre vous attribue oui, cette identité.
C'est un peu revendiqué, assigné en fait.
Oui, absolument. Oui. C'est dans ce sens. Hein. Mm-hmm. Effectivement, c'est...
Moi, pour rebondir, mais encore une fois, un peu à l'extérieur, moi, ce qui me semble intéressant, par contre, dans ce que vous proposez comme entre le revendiqué et l'imposé, en termes de mobilité, c'est aussi pouvoir envisager la migration et donc l'exil comme une démarche. Mm-hmm. Et pas que comme une contrainte. Et moi, je suis très, très... Enfin, évidemment, c'est toujours pas compliqué. Moi, je suis très étonnée à chaque fois de la représentation. Alors là, très café du commerce, où on va valoriser à longueur d'onde l'expatriation de nos jeunes Français en Angleterre pour aller faire fortune. Et comment on va stigmatiser les mêmes démarches d'exil des jeunes Africains venant faire fortune en France. C'est-à-dire que, comme si d'un côté, il n'y avait qu'une contrainte, et comme si de l'autre, il n'y avait qu'un seul choix. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de pouvoir définir aussi les parcours migratoires comme étant aussi des choix, certes des choix contraints, mais des choix. Et par derrière ces choix, pour moi, en termes de valorisation, pas valoriser pour valoriser, mais du courage. Du courage. On en discute souvent entre nous, mais qui aurait aujourd'hui le courage pour de partir aussi loin on en parle surtout pour les mineurs étrangers isolés qu'on accueille tous les jours, mais voilà, quels enfants ça fait, quels jeunes ça fait quand on parcourt, alors certes avec des dettes à rendre à la famille, des contraintes familiales, mais quand même quel parcours de vie, ce qui fait que les enfants qu'on reçoit, notamment protection de l'enfance après ces parcours qui sont presque des parcours initiatiques, sont en termes d'éducation, et tout autre enfant que ceux qu'on va recevoir en termes de protection d'enfance pour d'autres raisons. Et donc cette, entre guillemets, valorisation du parcours d'exil et de la volonté que ça suppose pour accepter un tant soit peu l'exil et le mettre en œuvre, me semble intéressant dans ces distinguos de mobilité choisie, enfin de mobilité assignée.
Mais c'est vrai que je ne l'ai pas directement associé au parcours migratoire, hein, plutôt à la question de la minorité.
Je me permets de m'attribuer la parole et après je te la laisse. En fait, pour revenir sur cette question de minorité volontaire ou involontaire, je pense qu'on ne pourrait jamais définir ce qui est volontaire ou pas, puisque en fonction d'un groupe et de qui parle, ça peut être vu comme volontaire ou pas. Par exemple, les Roms, du point de vue de nombreux enseignants et d'institutions scolaires, sont volontairement une minorité qui ne va pas à l'école. Mais peut-être que du point de vue des Roms, ils vont dire qu'ils sont involontairement cette minorité qui ne va pas à l'école. Donc finalement, en plus... on pourrait rendre ce critère de fréquentation volontaire ou involontaire, enfin d'absence de fréquentation volontaire ou involontaire de l'école, comme qui deviendrait un critère d'appartenance au groupe Rom. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cet enfant n'ira pas à l'école, on va dire qu'il est Rom. En revanche, quand il réussit, on en a parlé ici tout à l'heure, on oublie qu'il est Rom. Donc finalement, c'est vrai que cette question de volontaire ou involontaire, à mon avis, elle dépend aussi de qui parle et puis de quel moment, à quel moment on choisit d'activer ce critère ou pas.
Effectivement, oui.
Oui, voilà, en fait, tu as abordé la question que j'avais posée. En fait, je voulais rebondir sur la notion de mobilité pour dire que, Johanna l'a très bien remarqué, que, en fait, je me dis parfois, ça ne vaut pas la peine pour moi de se poser la question de savoir si c'est volontaire ou non, pourquoi, parce que il suffit de s'interroger, de se poser des questions sur les projets de vie, sur les trajectoires de ces différentes populations qu'on est en train d'observer, pour comprendre que pour eux, la question du volontaire ou non volontaire ne se pose pas toujours. Et à ce sujet, il serait peut-être important pour ma part de dépasser un peu la notion de mobilité que vous avez évoquée en parlant de Vincent Kaufmann, parce que Kaufmann radicalise un peu la mobilité à travers la notion de motilité. Et par le terme motilité, il recentre un peu les débats autour de l'individu, l'individu avec son histoire, l'individu avec son expérience, etc., ses projets, etc. Et à ce moment, je pense qu'on pourra véritablement donner la parole aux minorés, aux dominés. Et à partir de cette posture, je me dis, les professionnels, je me dis, les chercheurs peuvent commencer à comprendre les choses autrement. Tout à l'heure, j'ai reculé que les hommes préfèrent peut-être la culture de l'oral. Et moi, je me suis dit, oui, les hommes préfèrent la culture de l'oral, mais il s'agit peut-être d'une remarque qui découle. Bon, je ne dis pas comme vous l'avez dit, c'est une certaine lecture pour la tête. Je me dis, là, c'est une posture qui découle d'une observation. Je ne sais pas, de la classe dominante, à mon avis. Si je me réfère à mon expérience africaine, en Afrique, dans certaines cultures, dans certains contextes sociaux, l'oral ou l'écrit, la question ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que la société est structurée de sorte que le griot joue le rôle de l'écrit. Le griot, c'est la bibliothèque du village. À ce moment, si on dit que les Africains préfèrent l'oral, ça n'a pas de sens pour l'Africain en soi, je me dis, et c'était peut-être important, si on décentre un peu le raisonnement autour de la motivité, de chercher à voir comment valoriser ces pratiques, ces couches minoritaires, etc. Et on pourrait à ce moment légitimer un peu plus leur processus de vie. Et cela revient à dire que le chercheur, le professionnel, etc., devrait tenir compte, pour ma part, d'une dynamique de contextualisation qui fédère tellement de choses, comme l'expérience de vie de chacun, et les différentes trajectoires de marginalisation, de discrimination construites par cette population, etc. Voilà.
Oui, alors effectivement, hein, j'ai cité Kaufmann parmi les chercheurs qui travaillaient sur les questions de mobilité actuellement, hein, mais avec un regard extrêmement... qui, au début de ses travaux, en tout cas, se focalisait particulièrement sur la motilité, hein, et donc la mobilité en termes d'espace, peut-être de territoire géographique, hein, pour l'élargir à partir des travaux d'Apadoural, pour tenter de montrer en quoi justement les frontières, les espaces cognitifs également devaient permettre ou pouvaient permettre, hein, de susciter ces rapprochements, ces mises en voie des cultures. Et vous avez tout à fait raison, hein, l'approche de la mobilité telle que Kaufmann l'a développée au début de ses travaux, en tout cas, est beaucoup trop réductrice dans cette voie-là. Bien sûr.
Je m'excuse de ne pas avoir pu entendre tout votre exposé, j'avais une urgence, mais pour revenir à la question du racisme d'institution et sur la question de la scolarité des enfants roms, je ne sais pas si vous l'avez traité, mais le fait que tout organise, nos propres réglementations et nos propres organisations organisent la déscolarisation des enfants roms. Puisque, vous savez, bien qu'ils soient communautaires, ils n'ont pas le droit aux prestations familiales, ils n'ont pas le droit de travailler, et donc les seuls acteurs du groupe familial qui vont pouvoir travailler sans avoir à subir la réglementation liée à l'absence de titre de séjour, ça va être les enfants, et donc l'apport économique du travail des enfants qui bien évidemment les éloignent de l'école, va souvent, va constituer une des ressources importantes du groupe familial. Et donc, et on voit bien, enfin, nous, c'est quand on traite cette question-là avec les familles et qu'on dit qu'est-ce qui pourrait se substituer à l'apport économique du travail des enfants, et est-ce que si on est dans une politique de substitution en termes de ressources pour la famille du travail des enfants, est-ce que vous êtes partie prenante de la scolarisation? Eh bien, en tout cas, ils ont eu les mêmes réactions que les familles françaises il y a 150 ans, j'exagère, il y a 80 ans, quand on a inventé l'allocation familiale en échange de scolarisation, ils disent banco. Nous, c'est ce qu'on observe, dès qu'on a permis à ce que les enfants ne soient sur les familles qu'on a accueillies, des fois la mendicité des enfants ou le travail des enfants apportait entre 40 et 60% de la ressource familiale. Donc bien évidemment, ne pas traiter cette question-là quand on traite la question de la scolarisation, c'est une vraie difficulté. Et ça, c'est bien notre organisation institutionnelle française qui prive les familles roms de l'accès aux ressources de substitution, qui autorise la déscolarisation et qui travaille
les enfants. Ouais, et en même temps, sur la question de la non-scolarisation, de la déscolarisation, il y a des facteurs qui sont vraiment, je pense, multiples et plus complexes, parce qu'en ayant travaillé notamment sur la situation des enfants tziganes français, donc dans un tout autre contexte, effectivement, de droit ou administratif, ils n'étaient pas plus à l'école pour autant. Et donc voilà, donc la lecture qu'on peut faire de leur absence de l'école, elle me semble plus complexe que ça. Et le fait de dire banco, on les met à l'école, parfois effectivement on les met et puis ça tient pas. Et ce qui montre aussi qu'il y a d'autres freins. C'est pour ça que moi là dans le centre d'hébergement d'urgence, je vois que selon les familles qui sont à peu près toutes dans des situations équivalentes, ou en tout cas qui vivent au même endroit, on est sur des pratiques complètement différentes, des projets qui sont différents, et donc une adhésion au projet scolaire, je ne parle même pas de la scolarité en tant que telle qui peut être plus ou moins chaotique, mais l'adhésion même au projet scolaire, elle est complètement différente d'une famille à une autre. Et il y a eu des dérives par rapport à ça, notamment dans l'accueil des populations migrantes. J'ai pas dit par exemple que le CHU c'est un accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on accueille les familles sans mettre de conditions à leur présence là. Ce qui n'est pas le cas par exemple des villages d'insertion. Pour pouvoir bénéficier d'un petit bungalow, il faut trouver du travail, il faut mettre les enfants à l'école, etc. Et moi quand j'avais travaillé sur les terrains de stationnement, le terrain de stationnement sauvage et les terrains officiels. Donc il y a quelques années, j'avais vu donc, des associations dire à des familles, si vous mettez vos enfants à l'école, on vous donne une place sur un terrain de stationnement autorisé. Et donc il y a des liens comme ça concrets entre par exemple sédentarisation, scolarisation, stabilisation, scolarisation, etc. Et en fait, quand on est sur le terrain et qu'on étudie ça, on se rend compte que c'est pas aussi simple. C'est pour ça que vous n'étiez peut-être pas là quand je l'ai dit, mais quand les enseignants renvoient aux travailleurs sociaux, mais les familles, elles sont là, elles bougent pas. Qu'est-ce qui les empêche de mettre les enfants à l'école et donc régler le problème? Ah ouais, bah moi ça fait un an que je vois des gens qui se disent, ah oui, tiens, comment est-ce qu'on fait? Et là, je rejoins ce que vous disiez, monsieur, enfin, sur le projet même d'aller à l'école, on prend ça pour une évidence, comme un allant de soi, parce qu'on est dans une société surscolarisée, et on ne se pose même pas la question de... alors, ça peut faire bondir, hein, puisque effectivement, aller à l'école, c'est un droit aussi, c'est pas qu'un devoir, c'est aussi un droit, mais par contre, sur le sens du projet scolaire, là, je pense qu'on ne se pose pas suffisamment de questions sur de quelle façon est-ce que ça fait sens ou pas pour la famille. Et avant moi, d'autres ont dit que c'est une vision ethnocentrique aussi de croire que l'école doit faire partie de la vie de tout un chacun. C'est une vision ethnocentrique de croire que l'école des uns, c'est l'école des autres, etc., etc. Et on a une vision très normative de l'école.
Mais pas plus différente, encore une fois, que... historiquement pour nous, ça a été la même chose.
Bien sûr.
On a imposé, et avec les mêmes outils de politique publique qui étaient les allocations familiales, le
tout à fait.
État. Il y a pas. Et je suppose que, le rêve de l'émancipation par l'école de la République, les hussards de la République, etc., c'est un discours qu'on a construit après, mais pas si lointain de ça, les familles de paysans préféraient que l'enfant soit au champ plutôt qu'à l'école, et donc on a imposé un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que je veux dire, je ne suis pas sûre que les populations roms vis-à-vis de cette question-là soient très différentes.
Ah, je suis d'ailleurs, mais je suis
très, très
je
différentes suis complètement du fait qu'à chaque fois, la scolarisation des enfants a été de fait imposée par les
populations,
par les pouvoirs publics, de fait, quelles que soient les populations concernées.
Je voulais continuer sur ce thème-là parce que je pense qu'il y a toute une dimension symbolique qu'on n'a pas du tout abordée, en tout cas en tant que telle, même si elle traverse ce qui a été dit, et notamment sur la question de ce que c'est que l'émancipation, ce que c'est que l'éducatif, ce que c'est que le formatif, et là, ce que c'est que la parentalité, c'est-à-dire que quel crédit l'école et d'une certaine manière les acteurs sociaux et les acteurs de l'école accordent une modalité de parentalité des parents roms ou d'autres qui n'adhèrent pas, ou en tout cas qui ne sont pas entrés dans cette question sous cette forme-là, parce que beaucoup vont dire oui, on va les mettre à l'école, ils vont pas les mettre, ou ils vont les mettre et ça ne va pas marcher, puis d'autres vont les mettre et ça va marcher. Mais je pense qu'il y a là aussi une tension entre ce qu'est la mission de l'école, notamment de l'éducation nationale, qui est aussi former des citoyens, normés avec des valeurs qui sont... En tout cas, c'est dit comme ça, c'est dans le discours de l'école, et des pratiques et des valeurs qui rentrent en conflit, et notamment autour de l'éducation, parce que les enseignants, pour dire les choses clairement, ils pensent que ce sont les meilleurs éducateurs du monde, et que les parents, s'ils sont acculturés très connivants avec... l'éducation censée être portée par l'école, ça tout va bien. Et puis si c'est autre chose, à ce moment-là, on n'est pas parent, ou en tout cas, on n'est pas bon parent. Donc cette question-là, elle est en tension permanente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la mission de l'éducation nationale reste une mission d'émancipation par le savoir. Ben ça, je ne prononce pas là-dessus en tout cas, mais sur la dimension symbolique du sens de l'école, et notamment du sens de l'éducatif, je pense que là, on est au cœur de la problématique. Et je refais le lien avec ce qui a été dit ce matin, aussi avec les migrants adultes, c'est-à-dire qu'il y a des collusions et des confusions entre ce qui est l'éducatif, ce qui est le formatif, ce qui est l'institutionnel, et on voit des adultes, je dirais, entraînés sur le terrain éducatif avec des proximités liées à la petite enfance, et à d'autres moments, des négations de ce qui est l'éducatif avec la petite enfance, et notamment l'expertise ou la compétence des parents sur un certain nombre de choses, sur les savoirs informels qui sont parfois complètement niés par les institutions. Donc on est dans des confusions, des collusions, alors opportunistes, hein, parce qu'à un tel moment c'est intéressant de le voir comme ça, à un tel moment on a un enjeu à le voir autrement, mais je pense qu'on est plus souvent dans le domaine du symbolique qu'on le pense, en tout cas qu'on le dit.
Non, je voulais juste savoir si on était dans la discussion générale ou dans la discussion.
On a déjà dépassé normalement
la discussion générale. C'est pour ça que je posais la question. Et je voulais m'excuser d'être arrivé en cours de route dans votre exposé, mais il y a un moment, il y en a à dire, il reste 15 minutes, donc je me suis dit, bon, quand même, il reste un bon morceau. Donc je suis désolée.
Donc effectivement, on avait commencé avec un quart d'heure, le fameux quart d'heure de battement depuis ce matin. Donc là, on peut, je pense, donc il est 16h, c'est ça ? 16h07, très précisément. Donc on peut faire un point, je pense qu'on peut enchaîner la discussion générale sur les questions qui n'ont pas été posées ce matin ou des points que vous souhaiteriez les uns et les autres apporter en complément. Peut-être réduire le temps de la synthèse et puis éventuellement de... soit d'aller jusqu'à 17h ou un peu avant 17h, et avant de repartir, faire la pause, en fait, en se battant là. Peut-être pas casser le rythme.
Ah oui, d'accord.
De tout enchaîner, en fait.
Et à ce moment-là, on voit un grand 5h moins 4, c'est ça.
Voilà,
c'est
ça. En trois quarts d'heure, on fait le tour des questions, synthèse.
Voilà.
Merci.
Oui.
On commence là ?
C'était à la fois pour enchaîner avec la question, enfin avec la remarque de Cécile, et faire référence à votre intervention ce matin, qui me semble tout à fait illustrer une des questions phares, une des questions clés. Liée à la parentalité, où l'on a, comme on le voit dans la présentation qui a été faite par Delphine, on a fortement majoré le rôle éducatif du parent, et ce serait presque à se demander si la parentalité ne consiste plus que dans le rôle éducatif des parents. Et du coup, évidemment, dans cette approche-là, on voit combien il est difficile pour les parents de se situer par rapport à l'école, mais aussi pour les travailleurs sociaux de prendre en charge ce qu'ils pensent devoir prendre en charge, c'est-à-dire le rôle éducatif que le parent n'est pas censé pouvoir assumer. Et ce matin, il m'a semblé que ce qui était tout à fait remarquable dans la proposition que vous aviez faite parmi les aspects de la formation, c'était précisément ne pas insister, ne pas focaliser sur ce rôle éducatif parental qui est surmajoré, mais sur un rôle sans aucun aspect péjoratif, domestique, hein, le nourrissage par exemple. On pourrait aussi penser à d'autres fonctions, hein, le portage, le sommeil, etc. Comment, en valorisant ou en mettant en lumière ce rôle parental, effectivement, on fait un pas de côté qui rompt avec les approches qui sont tout à fait porteuses de contrôle social, hein, sur le volet éducatif, justement.
Moi, je dirais que c'était un petit peu la matière qui se prêtait à ça, puisque la petite enfance, voilà, on va être sur on appelle l'anodin du quotidien, les gestes du quotidien, et que là, les rencontres sont plus faciles, et les échanges de savoir-faire et les comparaisons entre les portages, etc., sont plus faciles. Comme on a été dans une démarche très pragmatique et basée sur la question professionnelle de la petite enfance, ça nous a bien évidemment aidé. Après, sur un champ plus général, ce qu'on essaye de travailler avec nos professionnels, mais là bien au-delà du projet Lola, c'est comment, et ça avait été d'ailleurs un des thèmes la fin de l'éducation dans le Val-de-Marne, il faut tout un village pour élever un enfant, c'est-à-dire un proverbe peuple qu'on avait écrit qui vient de Malienne. L'idée, c'est qu'il n'y a en effet pas que d'un côté l'école et de l'autre côté les parents qui participent à l'éducation des enfants, et que c'est bien la communauté d'adultes sur une structure, sur un territoire, sur un dispositif qui est en responsabilité à des degrés divers et variés, bien évidemment, mais de l'humanisation, de l'émancipation de la génération émergente. Donc oui, ça fait vraiment partie des choses qu'on aimerait construire fortement dans les pratiques professionnelles, parce qu'il y ait des solidarités articulées autour de la prise en charge des enfants.
Oui, mais j'irais un peu dans le même sens, c'est-à-dire que cette idée de parentalité, déjà, me paraissait déjà très réductrice, finalement, parce que c'est une autre vision très marqué que l'éducation, c'est un père et une mère, quoi. Or, dans un certain nombre de familles, moi j'avais pensé à famille, mais vous avez raison, c'est peut-être même élargir plus dans certains cas. Il y a d'autres rôles sociaux dans l'éducation que ceux des parents, au sens biologique du terme, quoi. Et donc, ça aussi, c'est peut-être quelque chose à entrer dans la réflexion, quelque part.
Juste une petite remarque rapide. Je sais
simplement pour dire qu'en fait, ces questions-là, on les discute aujourd'hui en s'interrogeant sur la question ou les questions migratoires, mais que, une fois de plus, et pour utiliser un terme que vraiment j'en ai un petit peu assez d'utiliser, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même, ça produit un effet loupe sur tes comportements. Ah mince. Bon. Et que finalement, cette communauté éducative élargie, on la retrouve chez soi. Et donc, je voulais aussi te poser la question, Delphine, et je t'ai posé ce midi, de savoir s'il y avait vraiment une pertinence à parler de la migration chez des familles roms. Est-ce que ça a apporté des analyses différentes d'un travail auprès de familles roms non migrantes?
Et donc, je t'avais dit pas forcément.
Voilà.
C'était notre conversation de ce midi, voilà. Pour la rendre plus efficace.
Exactement.
Oui, juste, c'est vraiment là aussi de la formation, je ne sais plus, je crois que c'est Emmanuel, on était en train de réfléchir aux enseignements de l'année prochaine et on a eu un petit topo de Nathalie Bonini, qui est anthropologue et qui travaille en Afrique, en Tanzanie, auprès des Maasai, et qui expliquait que elle aurait des choses à dire sur le fait que actuellement les ONG, les programmes mondiaux, etc., qui essayent de promouvoir la scolarisation en Afrique, notamment en passant par la scolarisation des filles, les anthropologues et les ONG se posent finalement pas mal de questions autour de ça en s'interrogeant sur. En remarquant qu'il y a beaucoup d'idéologies finalement à l'origine de ces bons programmes qui sont bien sûr le cœur sur la main, hein, en disant que ça va produire de l'émancipation, ça produit l'égalité, on passe par les filles, etc. Voilà, ils sont en train de s'interroger vraiment sur le bien fondé. Finalement, est-ce que ça si ça détruit pas plus que ça ne construit finalement? Et bon, je ne connais pas le fin fond de l'histoire, j'aimerais bien faire la petite souris et savoir ce qu'elle va dire aux étudiants l'année prochaine, mais c'est ça, je trouvais que ça renvoyait un petit peu aux interrogations qu'on avait là sur l'évidence des bienfaits de la scolarisation.
Bien sûr. Alors il y avait Marc, Cécile,
c'est juste une micro-remarque en forme de retour en arrière, parce que je voulais juste informer que la question de la parentalité, le contrôle social se manifeste là encore sous la forme du contrat, puisqu'il y a un contrat de responsabilité parentale qui existe et qui est un contrat qui est aussi un contrat unilatéral, qui est en fait une forme de sanction. Hein, propose ce contrat à des parents qui se comportent mal et avec un contrat qui a sorti bien sûr de sanctions.
Et en fait, c'était juste pour continuer et dire que c'est vrai que je pense que là on touche la distinction entre éthique et morale, c'est-à-dire qu'on porte souvent l'institution et les acteurs. En général, les institutions et les organismes portent un jugement moral sur la capacité parentale, sur la capacité à scolariser, sur la forme d'émancipation, et ça interpelle les dimensions éthiques des travailleurs et des acteurs, et notamment la déontologie. Et ça, on le fait par. Ben, c'est pas une dimension qu'on explore de manière toujours très, très éclairée, en tout cas toujours très mise en œuvre.
Alors, par rapport à la parentalité scolaire et à la problématique des parents et des attendus du système scolaire, je pensais au dispositif mis en place par l'Éducation nationale, la maladie des parents, ouvrir l'école aux parents, etc. Et qui, quelque part, c'est unilatéral aussi par rapport à ce que la maladie doit forcer quelques parents. Je pensais à ce que dit Yves Clos. Le travail à cœur, quand il analyse comment sont traités les troubles psychosociaux aujourd'hui par le monde du travail. En fait, à force de vouloir, c'est une façon de nous protéger en tant que salariés, on pense à nous, parce qu'effectivement, si on a des troubles psychosociaux, etc. Mais finalement, une fois qu'on est identifié, la responsabilité est personnelle et individuelle. Et du coup, l'organisation est complètement dédouanée de la part qu'elle peut avoir dans les troubles psychosociaux, les suicides, dans les entreprises, etc. Et quelque part, je trouve que le fait d'avoir des dispositifs très focalisés sur les parents et pas forcément sur les interactions avec l'ensemble des acteurs qui devraient s'interroger pour que les rôles soient équilibrés et réciproques, c'est une autre façon aussi de faire porter la responsabilité individuelle et pas forcément partagée par les acteurs principaux. Et dans la lutte contre l'illettrisme, c'est la même chose, c'est-à-dire on lutte contre l'illettrisme et on cherche à les identifier parce qu'on ne veut pas qu'ils souffrent, et quelque part, on n'interroge pas non plus les propositions qui sont faites sur le plan éducatif et cognitif pour avoir une responsabilité partagée.
Oui, autant au niveau de la scolarisation qu'au niveau des groupes sociolinguistiques, par exemple. L'une des questions qui a juste été ébauchée ce matin, mais qui est évidemment centrale dans toutes ces dans ces questionnements, hein, qui probablement sont en train d'émerger un peu plus qu'avant, c'est la question de la place accordée au savoir informel ou non formel, hein, et l'hyper formalisation de l'approche scolaire, en particulier dans l'institution scolaire française, peut-être plus qu'ailleurs. Là, il y a aussi une question d'approche par le territoire, probablement.
Là, je vais changer de sujet. Ah, pardon.
Non, moi, je suis dans la queue.
Mais je vais changer de sujet. Alors, si c'est dans le même sujet, vaut mieux que tu parles avant.
Non, c'était juste dire à Marc depuis ce matin que l'idée de contrat. C'est l'un des critères qui revient ici. Donc, l'idée selon laquelle le contrat ne serait pas négociable, etc. C'est vrai, mais en même temps, je crois que ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une offre d'accueil internationale et que les migrants, ils choisissent leur pays comme une entreprise. Et que s'ils ne veulent pas accepter le contrat, ils n'ont quand même pas venir en France. Je crains que ce soit ça qui soit en arrière, un peu comme face à la fiscalité, etc. Maintenant, les entreprises disent bah, si vous mettez un impôt à 35%, vous allez en Angleterre. Et le premier ministre anglais dit moi, je vous déroule le tapis rouge, on est vraiment dans un truc d'offre et de demande. Mais ça nuance un peu cet argument du juriste qui est très juridique. Non, mais qui ne tient pas compte de l'ambiance générale qui fait qu'un État peut se comporter comme une entreprise. Mais bon. Non, enfin, je ne sais pas. Ça m'étonne que ce juriste en soit resté à un argumentaire très juridique et ne soit pas allé juste un petit peu au-dessus en disant bah, en fait, voilà ce que ça veut dire. Enfin, ça sort. Non, mais...
Oui, donc je voulais changer de sujet, mais tout en restant dans la veine de ce qu'il disait de confusion entre éducatif et formatif, notamment par rapport à ce que Marina a dit aussi à d'autres moments sur la. Comment on voit l'adulte migrant en formation, je trouve que le comble de la chose, enfin, je suis avec le comble actuel, hein, parce qu'on en rappelle d'autres appels, le comble actuel, c'est dans le cadre de l'école ouverte aux parents. Moi, j'ai une conviction du bienfait de l'école ouverte aux parents, travailler, penser, réfléchir, en partenariat, en collaboration, voilà. Bon, mais. Actuellement, depuis quelques semaines et quelques mois, l'école ouverte aux parents s'associe au fond, à la formation,
absolument,
à l'école des parents des élèves, au DILF, donc à la certification du français. Parfois, pour l'avoir vu dans d'autres académies, en même temps que les enfants passent le DELF scolaire, en même temps que les parents passent le DILF à un point, à l'école, et avec le même côté, oh là là, c'est pas bien,
tout ça, c'est pour leur cas, c'est toujours
Donc là, je trouve qu'il y a une vraie, enfin, pas, je veux dire, c'est vrai, on l'a dit depuis ce matin, c'est toujours. Mais là, on arrive au bout du bout de la logique, quoi. C'est-à-dire que des adultes migrants vont se retrouver mis en situation d'enfant, avec des processus d'enseignement, apprentissage didactique, psychosociaux, affectifs et autres, comme s'ils étaient des enfants, avec des jugements de valeur, des évaluations. Oh, bah dis donc, tu vas aider ta maman à apprendre le français. Oh, bah dis donc, elle a une moins bonne note que toi.
Parler français
des
à la maison.
L'université, c'est comme ça.
Oui,
il n'y a pas que les migrants,
non, mais les enfants à côté de chez moi. Enfin, je trouve que là, on arrive au bout de la confusion du genre. Vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est l'archétype de la confusion du genre, ouais. De la collusion, ouais, entre l'intégration, l'apprentissage par, ouais, la langue, adultes, enfants, des didactiques qui sont soi-disant hyper précises et qui en fait mélangent des manières de faire qui sont inadapté, inapproprié. Enfin, je trouve que là, on touche vraiment le fond.
La langue, là, devient un outil de en quelque sorte, mesurer l'intégration, quoi.
Oui. Mmh.
Contrôler, mesurer l'intégration.
Oui, et puis avec l'arrière-plan que finalement, la langue, la maîtrise de la langue, conditionne l'intégration, mmh, sans poser la réciproque. Tu parles de toi, tu parles de réciprocité.
C'est moi qui ai commencé.
Ouais.
Tout le monde
en a parlé. Non, réversibilité, je sais pas.
Oui, oui, oui. Sans poser
le réversible, l'intégration ou les processus d'intégration, mm-hmm, sous différentes formes participent aussi à l'accès de la langue.
Oui. Et c'est encore plus pervers parce que ça pose le lien entre la maîtrise de la langue par les parents et la réussite scolaire des enfants. C'est-à-dire qu'on laisse croire que si les parents maîtrisent la langue, les enfants réussissent.
Ça fait longtemps.
Ça fait et là, c'est l'information même, la matérialisation au sein même de l'école, parce que ces cours-là se passent au sein même de l'école.
C'est-à-dire que, mais dans le fond, ça ne me choquerait pas du tout qu'on dise de manière explicite un parent qui parle le français avec l'enseignant de l'enfant, qui se sent plus à l'aise dans l'école, après tout, pourquoi pas si on est dans un accompagnement à la scolarité large, ouvert, partenarial, mais avec un respect des places, de la didactique, du contexte, et puis l'anthologie. Vraiment, le fait en soi de se dire que la manière dont les parents peuvent s'approprier un rôle de parent d'élève plus solide, moins insécure, ça, en soi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est la manière dont ça se fait. Ça, c'est hyper choquant. Et ce que je trouve encore plus choquant, c'est de décider que c'est ça qu'il faut.
Voilà, c'est l'injonction.
C'est ça qu'il faut, et on ne les laisse pas choisir de si c'est ça qu'il leur faut, pas ça qu'il leur faut, non, c'est ça qu'il faut. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas les bons parents, on ne va pas venir apprendre le français, donc on va invalider, parasiter la réussite des enfants, et c'est sans fin.
Et pour rebondir là-dessus, en fait, justement, moi, il me semble qu'on est en amalgame l'idée de formation et d'éducation, mais là, dans cette place-là, on n'est pas. Peut-être que même la langue est un prétexte pour éduquer ses parents à être des bons parents. Et je pense aussi à une association en région parisienne qui s'appelle l'École des femmes. Moi, ça me choque d'étudier de cette association, parce que derrière, qu'est-ce qui est travaillé? Et alors, je ne sais pas si c'est dans l'école ouverte ou c'est les enseignants des enfants qui enseignent aussi le français aux parents. Je crois qu'il y a eu un moment, en tout cas, l'éducation nationale me disait que ça pouvait être un enseignant de l'école qui enseigne le français aux parents qui viennent, c'est dans ce dispositif-là.
Ceux qui ont les journées FLS.
Oui, c'est s'informer. Donc en plus, on a, il y a tout ce que tu pointes, mais la place de l'enseignant qui devrait devenir formateur, mais qui reste quand même enseignant, qui a des enfants, qui a des parents.
Là-dessus, moi je suis un petit peu, du coup, moins, enfin, moins embêtée parce que c'est vrai que on sait, alors institutionnellement c'est mieux, mais on sait que la manière dont les acteurs s'approprient les choses font souvent, on l'a vu dans Paradis ou à plusieurs reprises, que même un dispositif institutionnel qui n'est pas forcément bon peut être finalement opératoire et respectueux par les acteurs. L'inverse est en vrai aussi, c'est-à-dire qu'un truc hyper bien, si les acteurs se l'approprient de manière complètement perverse, ça peut être complètement inefficace, voire cristalliser d'autres situations. Donc, je veux dire, un enseignant, un professeur des écoles peut devenir un excellent formateur d'adultes, et peut-être l'inverse à certains moments. Mais c'est l'esprit qui est gênant.
Oui,
c'est la manière symbolique d'enseigner.
Il y a l'esprit symbolique, c'est aussi présumer que par magie, l'enseignant aura cette transformation.
C'est ça. Enfin, oui, puis il y a l'idée de, enfin, je crois, la question de la professionnalité, c'est de se dire que, alors déjà, on a l'impression qu'on peut enseigner le français à n'importe qui. Je suis enseignant auprès d'enfants, je peux devenir formateur auprès d'adultes. Enfin, il y a toujours cette question de la professionnalité qui se pose, et on fait comme ça, comme si ça allait de soi. J'entends ce que tu dis, mais si cette personne n'est pas aussi former des adultes, en tout cas s'inscrire dans la formation pour adultes, on laisse aussi la porte ouverte à certaines dérives. Mais ça, c'est des problématiques qui vont du bénévole jusqu'à...
Oui, parce que à l'inverse, tu peux avoir des gens très mal formés,
oui, c'est ça,
en formation pour adultes, qui vont te faire un boulot très mauvais aussi.
Oui, concernant les dispositifs institutionnels sur le terrain, souvent, on constate, quand on les étudie au travers de recherches ethnographiques, que les acteurs ne se leurrent pas. Et l'un des discours de déploration des enseignants ou de l'éducation nationale, c'est l'absence des parents dans ces dispositifs, y compris des dispositifs qui sont l'objet d'une grande publicité, par exemple les mal-être des parents. Généralement, ça ne remplit pas les salles, loin de là, mais par contre, ce qui est inquiétant d'une certaine manière, c'est que ce discours de déploration n'est pas analysé chez les professionnels. Il est analysé plutôt dans le sens d'un retrait des parents, d'une fuite des parents, et non pas comme le signe ou le catalyseur d'une problématique et d'une tentative d'imposition supplémentaire de la part de l'institution scolaire, envers les familles en particulier, envers les adultes. Mais sur le terrain, pour avoir réalisé une étude en particulier pour le programme de réussite éducative de la ville de Paris, eh bien on voit qu'un certain nombre de ces actions rencontrent des formes de résistance très importantes.
Alors, tu seras la dernière pour cette partie, juste avant la synthèse, à trois voix.
Non, c'était pour revenir sur l'histoire des enseignants qui deviennent formateurs, etc. Je ne crois pas que ça veuille forcément dire qu'il soit nécessaire de mettre en place une formation des enseignants pour qu'ils deviennent formateurs des parents, comme si la formation en elle-même rendait des enseignants formateurs. Mais quand même, je pense que ce qui est interrogé, c'est le fait de penser que, automatiquement, d'une certaine manière, les enseignants s'approprieraient un autre rôle, enfin, opéreraient le décalage nécessaire au changement public. Après, pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire que ça passe par une formation, ça peut passer par d'autres formes de reconnaissance. Ça, c'était sur un point. Et l'autre, c'était plus sur les questions de langue, d'intégration. Par rapport aussi à ce qu'a expliqué Marc ce matin sur les fiches, c'est un fiche valeur de la République. Ce qu'il faut dire aussi autour du conseil en intégration, mais je pense que ce n'est pas inintéressant, c'est une question d'histoire, c'est que ce qu'il est préconisé de faire, c'est que tout cet enseignement des valeurs se fasse en français, avec l'idée qui est assez explicite, voilà, qui est explicitement, enfin, qui est
totalement aberrant, mais qui est dite explicitement, donc c'est pas nous qui les voyons.
Que les langues déterminent
les manières de penser, et donc voilà.
C'est le premier, la première phrase du fameux document FLI.
Oui, mais enfin, il y a ça qui nous fait tous bondir, mais alors les concepteurs disent oui, mais c'est le ministère qui a dit ça, c'est pas nous. Hein. Mais au-delà de ça, on retrouve à plusieurs endroits, au-delà de cette seule phrase, l'idée qu'il faudrait enseigner les valeurs en français, puisque ces valeurs ne peuvent pas se traduire, et que l'appropriation de ces valeurs, donc l'intégration dans la société française, passe par l'enseignement de ces valeurs en français.
Synthèse de quoi que ce soit.
Personne n'a
cette idée. Certainement pas de cette journée qui a été aussi riche et aussi intéressante. Je vais juste prendre picorer, si je puis dire, picorer de trois remarques, idées qui m'ont particulièrement interpellée. La première que j'ai relevée, c'est entre les articulations des rapports sociaux, la question notamment de toute cette propension à renvoyer à la question de nature, en tout cas renvoyer à la nature. Et ça m'a suggéré les difficultés de trouver la bonne place sur la question de l'accompagnement des publics issus de l'immigration, d'origine étrangère ou étrangère, en tout cas la question de la culture de l'autre, avec à la fois ces écueils d'un très grand relativisme, on pourrait tomber dans un différentialisme permanent, où il n'y a que l'étrange qui existe et peu de choses qui passent socle commun, ou au contraire un réductionnisme à quelques valeurs communes sur lesquelles chacun s'arc-bouterait. Et je me disais en vous écoutant pendant toute cette journée, quelle difficulté pour le champ de l'action de positionner ces pratiques professionnelles entre ces deux écueils et quels sont les garde-fous, quelles sont les vigilances à construire et comment les construire pour éviter ces deux écueils d'un trop grand différentialisme ou d'un trop grand réductionnisme sur l'accompagnement des populations. Donc ça a été une première partie de réflexion que j'ai entendue tout au long de la journée. L'autre chose qui m'a très fortement interpellée, c'est la question, mais je l'ai dit tout à l'heure, du racisme d'institution. Vous pensez bien que ça ne pouvait être plus interpellé, étant complètement institutionnel. Très clairement, une administration organisatrice des politiques publiques, mais je partage totalement, même si le mot est fort.
Oui.
Il est fort, mais il me semble tout à fait vrai, du racisme d'institution. Et j'ai totalement apprécié quand vous pouviez le mettre en parallèle avec le racisme des classes populaires, qui serait lui par essence normal, parce qu'il est en concurrence sur le marché du travail immédiatement avec les migrants. Et ce serait là que seraient les problématiques du racisme en France, sur ces classes populaires. Or, on voit bien comment, enfin moi, ce que vous avez évoqué, comment, oui, il y a une organisation. Alors certes, certainement pas aussi machiavélique que dans d'autres organisations politiques totalitaires, mais il y a une organisation institutionnelle de la différence de traitement, en termes d'inégalité de traitement, donc en termes d'organisation des discriminations. L'organisation des discriminations liées à l'appartenance ethnique, à l'appartenance géographique, à l'appartenance nationale. Et je n'en veux pour preuve, et je vais juste illustrer mon propos par quelque chose qui pour nous a fait sens, mais il semblerait que ça n'a fait sens que pour le champ de la protection de l'enfance. Il y a 4 mois, monsieur le président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de façon unilatérale d'arrêter de prendre en charge les mineurs isolés étrangers. La loi oblige les départements à prendre en charge les enfants à protéger. Et la loi a dit que les mineurs étrangers isolés étaient des enfants à protéger. Et en matière de décentralisation, ça s'appelle une compétence obligatoire. Comme son nom l'indique, on ne se peut pas s'y soustraire. Et bien voilà qu'un au motif, des motifs tout à fait évidents et vrais, une surcharge financière extrêmement importante pour ce département déjà sinistré socialement, un coût financier insupportable, donc il décide unilatéralement par communiqué de presse, donc sans délibération, sans débat démocratique, sans vote de l'Assemblée départementale, quelque chose d'un passage à l'acte absolument incroyable, de dire, puisque c'est trop cher, j'arrête ma mission obligatoire de protection de ces enfants au titre de leur nationalité étrangère. Parce que qu'est-ce qui faisait la différence entre ces enfants-là et les autres? C'était leur nationalité étrangère. Et donc là, à la face de tout le monde, et avec le soutien de tous ces travailleurs sociaux et de toute la presse professionnelle, avec haro contre le gouvernement Sarkozy sur la question, mais qu'est-ce qu'il était en train de démontrer, ce président du Conseil général? C'est qu'il pouvait absolument, sans encourir les foudres de quiconque, décider qu'il privait de protection des populations enfantines au titre de leur nationalité. Donc si ça ne s'appelle pas des pratiques discriminatoires revendiquées, et ça n'a soulevé l'émotion de personne sur ce thème-là. Sur le thème, c'était une décision raciste qui venait d'être prise par une institution, et encore plus par un département en charge de la protection de l'enfance et d'un département de l'autre. Donc, moi, ça a été bien évidemment extrêmement frappant de ce racisme des institutions qui est complètement banalisé. Vous pouvez avoir aujourd'hui des maires, des bailleurs sociaux qui vous expliquent qu'au nom de la mixité sociale, des HLM, ils vont refuser des familles étrangères. C'est des pratiques illégales, mais qui sont clairement revendiquées. Donc il y a un consensus extrêmement fort sur cette organisation du racisme des institutions. Et je suis très contente d'avoir entendu ce terme dit de façon aussi énoncée. La dernière chose que j'ai entendue, mais que je n'ai pas complètement bien compris, mais que j'ai entendue et qui m'a intéressée intellectuellement, même si je n'ai pas tout compris, c'est tout ce que vous avez travaillé autour de la notion de frontière. Et j'en ai ressorti une notion assez floue de frontières, frontières géographiques, frontières culturelles, frontières mouvantes, frontières d'appartenance, frontières choisies. Mais voilà, ça m'a donné envie d'y aller voir de plus près sur cette notion de frontière. Encore une fois, à partir de ce que moi je peux en entendre, puisque le choix de la décentralisation a été un choix de définir les politiques à partir du territoire, en définissant des territoires d'appartenance, et ça m'a toujours extrêmement troublée, cette notion de décentralisation et de territoire d'appartenance et de territoire assigné à l'action sociale. Et alors, que faire des gens qui n'appartiennent pas au territoire? Cela, c'est de la compétence de l'État. Donc, il y avait ceux qui appartenaient au territoire des départements, qu'on avait pris en charge, puis il y avait les SDF, les sans-domicile fixe, qui n'appartenaient pas au territoire, et qui alors là est à la charge de l'État, une espèce de protection résiduelle de plus en plus congrue. parce qu'ils étaient chassés des territoires. En vrai, ils étaient chassés des politiques d'action sociale territorialisées. Donc cette notion de territoire, cette notion de frontière, moi, m'a toujours semblé extrêmement dangereuse à manipuler en termes de politique sociale. Et donc j'ai retrouvé, même si je n'ai pas compris toutes les subtilités de vos définitions, j'ai retrouvé dans ce que vous évoquez là, en tout cas, mes inquiétudes sur des définitions trop précises de la notion de frontière. Très rapidement, ce que je pouvais dire sur mes premières réactions de cette journée. Merci.